On dirait qu'en général, les hommes n'ont jamais réfléchi à ce que c'est qu'une maison, et sont réellement, quoique inutilement, pauvres toute leur vie, parce qu'ils croient devoir mener la même que leurs voisins. Comme s'il fallait porter n'importe quelle sorte d'habit que peut vous couper le tailleur, ou, en quittant progressivement le chapeau de feuilles de palmier ou la casquette de marmotte, se plaindre de la dureté des temps, parce que vos moyens ne vous permettent pas de vous acheter une couronne. Il est possible d'inventer une maison encore plus commode et plus luxueuse que celle que nous avons, laquelle cependant tout le monde admettra qu'aucun homme ne saurait suffire à payer. Travaillerons-nous toujours à nous procurer davantage, et non parfois à nous contenter de moins? Le respectable bourgeois enseignera-t-il ainsi gravement, de préceptes et d'exemples, la nécessité pour le jeune homme de se pourvoir avant de mourir d'un certain nombre de caoutchoucs superflus, et de parapluies, et de vaines chambres d'amis pour de vains amis? Pourquoi notre mobilier ne serait-il pas aussi simple que celui de l'arabe ou de l'indien? Lorsque je pense aux bienfaiteurs de la race, ceux que nous avons glorifiés comme messagers du ciel, porteurs de dons divins à l'adresse de l'homme, je n'imagine pas de suite sur leurs talons, pas plus que de chartes et de meubles à la mode. Où me faudra-t-il reconnaître, singulière reconnaissance, que notre mobilier doit être plus compliqué que celui de l'arabe, en proportion de notre supériorité morale et intellectuelle sur lui? Pour le présent, nos maisons en sont encombrées, et toute bonne ménagère en pousserait volontiers la majeure partie au fumier pour ne laisser pas inachever sa besogne matinale. La besogne matinale. Par les rougeurs de l'aurore et la musique de même nom, quelle devrait être la besogne matinale de l'homme en ce monde? J'avais 3 morceaux de pierre calcaire sur mon bureau, mais je fus épouvanté de m'apercevoir qu'il demandait à être épousté chaque jour, alors que le mobilier de mon esprit était encore tout non épousté. Écœuré, je l'ai jeté par la fenêtre. Comment alors aurais-je eu une maison garnie de meubles? Plutôt me serais-je assis en plein air, car il ne s'amoncelle pas de poussière sur l'herbe, sauf où l'homme a entamé le sol. C'est le voluptueux, c'est le dissipé qui lance les modes que si scrupuleusement suit le troupeau. Le voyageur qui descend dans les bonnes maisons, comme on les appelle, ne tarde pas à s'en apercevoir, car les aubergistes le prennent pour un sardanapal, et s'il se soumettait à leurs tendres attentions, il ne tarderait pas à se voir complètement émasculé. Je crois qu'en ce qui concerne la voiture de chemin de fer, nous inclinons à sacrifier plus au luxe qu'à la sécurité et la commodité, et que sans atteindre à celle-ci, elle menace de ne devenir autre chose qu'un salon moderne, avec ses divans, ses ottomanes, ses stores, et cent autres choses orientales que nous emportons avec nous vers l'ouest, inventées pour les dames du harem et ses habitants efféminés du céleste empire, dont Jonathan devrait rougir de connaître les noms. J'aimerais mieux m'asseoir sur une citrouille et la voir à moi seul, qu'être pressé par la foule sur un coussin de velours. J'aimerais mieux parcourir la terre dans un char à bœufs, avec une libre circulation d'air, qu'aller au ciel dans la voiture de fantaisie d'un train d'excursion, en respirant la malaria tout le long de la route. La simplicité et la nudité même de la vie de l'homme aux âges primitifs impliquent au moins cet avantage, qu'elle le laissait n'être qu'un passant dans la nature. Une fois rétabli par la nourriture et le sommeil, il contemplait de nouveau son voyage. Il demeurait, si l'on peut dire, sous la tente ici-bas, et passait le temps à suivre les vallées, à traverser les plaines ou à grimper au sommet des monts. Mais voici les hommes devenus les outils de leurs outils. L'homme qui, en toute indépendance, cueillait les fruits lorsqu'il avait faim, est devenu un fermier, et celui qui, debout sous un arbre, en faisait son abri, un maître de maison. Nous ne campons plus aujourd'hui pour une nuit, mais nous étant fixés sur la terre, avons oublié le ciel. Nous avons adopté le christianisme simplement comme une méthode perfectionnée d'agriculture. Nous avons bâti pour ce monde-ci une résidence de famille et pour le prochain une tombe de famille. Les meilleures œuvres d'art sont l'expression de la lutte que soutient l'homme pour s'affranchir de cet état. Mais tout l'effet de notre art est de rendre confortable cette basse condition-ci et de nous faire oublier cette plus haute condition-là. Il n'y a véritablement pas place en ce village pour l'érection d'une œuvre des beaux-arts, s'il nous en était venu le moindre, car nos existences, nos maisons, nos rues ne lui fournissent nul piédestal convenable. Il n'y a pas un clou pour y pendre un tableau, pas une planche pour recevoir le buste d'un héros ou d'un saint. Lorsque je réfléchis à la façon dont nos maisons sont bâties, au prix que nous les payons ou ne payons pas, et à ce qui préside à la conduite comme à l'entretien de leur économie intérieure, je m'étonne que le plancher ne cède pas sous les pieds du visiteur dans le temps qu'il admire les bibelots couvrant la cheminée, pour le faire passer dans la cave jusqu'à quelque solide et honnête, quoique terreuse, fondation. Je ne peux m'empêcher de remarquer que cette vie, soi-disant riche et raffinée, est une chose sur laquelle on a bondi, et je me rends malaisément compte des délices offertes par les beaux-arts qui l'adornent, mon attention étant tout entière absorbée par le bon. Je me rappelle en effet que le plus grand saut naturel dû aux seuls muscles humains, selon l'histoire, est celui de certains Arabes nomades qui passent pour avoir franchi 25 pieds en terrain plat. Sans appui factice, l'homme est sûr de revenir à la terre au-delà de cette distance. La première question que je suis tenté de poser au propriétaire d'une pareille impropriété est « Qui vous étaye ? Êtes-vous l'un des 97 qui font faillite ou l'un des 3 qui réussissent ?» Répondez à ces questions et peut-être alors pourrai-je regarder vos babioles en les trouvant ornementales. La charrue devant les bœufs n'est ni belle ni utile. Avant de pouvoir orner nos maisons de beaux objets, il faut en mettre à nu les murs, comme il faut mettre à nu nos existences, puis poser pour fondement une belle conduite de maison et une belle conduite de vie. Or, c'est surtout en plein air, où il n'est ni maison ni maître de maison, que se cultive le goût du beau. Le vieux Johnson, en son Wonderworking Providence, parlant des premiers colons de cette ville-ci, colons dont il était le contemporain, nous dit « Ils se creusent un trou en guise de premier abri au pied de quelques versants de colline. Et, après avoir lancé le déblai en l'air sur du bois de charpente, font un feu fumeux contre la terre du côté le plus élevé. Ils ne se pourvurent de maison, ajoute-t-il, que lorsque la terre, grâce à Dieu, produisit du pain pour les nourrir. Et si légère fut la récolte de la première année, qu'ils durent pendant un bon moment couper leur pain très mince. » Le secrétaire de la Maison des Nouveaux Pays-Bas, écrivant en hollandais en 1650, pour l'enseignement de qui désirait y acquérir des terres, constate de façon plus spéciale que ceux qui, dans les Nouveaux Pays-Bas, et surtout en Nouvelle-Angleterre, n'ont pas les moyens de commencer par construire des maisons de ferme suivant leurs désirs, creusent une fosse carrée dans le sol, en forme de cave, de 6 à 7 pieds de profondeur, de la longueur et de la largeur qu'ils jugent convenables, revêtent de bois la terre à l'intérieur, tout autour du mur, et tapissent ce bois d'écorce d'arbre ou de quelque chose d'autre afin de prévenir les éboulements. Garnissent de planches le sol de cette cave et la lambrissent au-dessus de la tête en guise de plafond. Élèvent un toit d'espars sur le tout et couvrent ces espars d'écorce ou de mottes d'herbe de manière à pouvoir vivre au sec et au chaud en ces maisons, eux et tous les leurs, pendant 2, 3 ou 4 années, étant sous-entendu qu'on fait traverser de cloisons ces caves adaptées à la mesure de la famille. Les riches et principaux personnages de la Nouvelle-Angleterre, au début des colonies, commencèrent leurs premières habitations dans ce style, pour 2 motifs. Premièrement, afin de ne pas perdre de temps à bâtir et ne pas manquer de nourriture à la saison suivante. Secondement, afin de ne pas rebuter le peuple de travailleurs pauvres qu'ils amenaient par cargaison de la mère patrie. Au bout de 3 ou 4 ans, le pays, une fois adapté à l'agriculture, ils se construisirent de belles maisons auxquelles ils consacrèrent des milliers de dollars. En ce parti adopté par nos ancêtres, il y avait tout au moins un semblant de prudence, comme si leur principe était de satisfaire d'abord aux plus urgents besoins. Mais est-ce aux plus urgents besoins que l'on satisfait aujourd'hui? Si je songe à acquérir pour moi-même quelqu'une de nos luxueuses habitations, je m'en vois détourné, car, pour ainsi parler, le pays n'est pas encore adapté à l'humaine culture, et nous sommes encore forcés de couper notre pain spirituel en tranches beaucoup plus minces que ne faisaient nos ancêtres leur pain de froment. Non point que tout ornement architectural soit à négliger, même dans les périodes les plus primitives, mais que nos maisons commencent par se garnir de beauté là où elles se trouvent en contact avec nos existences, comme l'habitacle du coquillage, sans être étouffé dessous. Hélas, j'ai pénétré dans une ou deux d'entre elles, et sais de quoi elles sont garnies. Bien que nous ne soyons pas dégénérés, au point de ne pouvoir à la rigueur vivre aujourd'hui dans une grotte ou dans un wigwam, sinon porter des peaux de bête, il est mieux certainement d'accepter les avantages, si chèrement payés soient-ils, qu'offrent l'invention et l'industrie du genre humain. En un pays comme celui-ci, planches et bardeaux, choses et briques sont meilleurs marchés et plus faciles à trouver que des grottes convenables, ou des troncs entiers, ou de l'écorce en quantité suffisante, ou même de l'argile bien trempée ou des pierres plates. Je parle de tout cela en connaissance de cause, attendu que je m'y suis initié de façon à la fois théorique et pratique. Avec un peu plus d'entendement, nous pourrions employer ces matières premières à devenir plus riches que les plus riches d'aujourd'hui, et à faire de notre civilisation une grâce du ciel. L'homme civilisé n'est autre qu'un sauvage de plus d'expérience et de plus de sagesse. Mais hâtons-nous d'en venir à ma propre expérience. Vers la fin de mars 1845, ayant emprunté une hache, je m'en allais dans les bois qui avoisinent l'étang de Walden, au plus près duquel je me proposais de construire une maison, et me mis à abattre quelques grands pins Weymouth fléchus, encore en leur jeunesse, comme bois de construction. Il est difficile de commencer sans emprunter, mais sans doute est-ce la plus généreuse façon de souffrir que vos semblables aient un intérêt dans votre entreprise. Le propriétaire de la hache, comme il en faisait l'abandon, déclara que c'était la prunelle de son œil, mais je la lui rendis plus aiguisée que je ne la reçus. C'était un aimable versant de colline que celui où je travaillais, couvert de bois de pin, à travers lesquels je promenais mes regards sur l'étang, et d'un libre petit champ au milieu d'eux, d'où s'élançaient des pins et des hickories. La glace de l'étang, qui n'avait pas encore fondu, malgré quelques espaces découverts, se montrait toute de couleur sombre et saturée d'eau. Il survint quelques légères chutes de neige dans le temps que je travaillais là. Mais en général, lorsque je m'en revenais au chemin de fer pour rentrer chez moi, son amas de sable jaune s'allongeait au loin, miroitant dans l'atmosphère brumeuse, les rails brillaient sous le soleil printanier, et j'entendais l'alouette, le pee-wee et d'autres oiseaux déjà là pour inaugurer une nouvelle année avec nous. C'était d'aimables jours de printemps où l'hiver du mécontentement de l'homme fondait tout comme le gel de la terre, et où la vie, après être restée engourdie, commençait à s'étirer. Un jour que ma hache s'étant défaite, j'avais coupé un hickory vert pour fabriquer un coin, enfoncé ce coin à l'aide d'une pierre et mis le tout à tremper dans une mare pour faire gonfler le bois, je vis un serpent rayé entrer dans l'eau, au fond de laquelle il resta étendu, sans en paraître incommodé, aussi longtemps que je restais là, c'est-à-dire plus d'un quart d'heure. Peut-être parce qu'il était encore sous l'influence de la léthargie. Il me parut qu'à semblable motif, les hommes doivent de rester dans leurs basses et primitives conditions présentes. Mais s'ils venaient à sentir l'influence du printemps des printemps les réveiller, ils s'élèveraient nécessairement à une vie plus haute et plus éthérée. J'avais auparavant vu sur mon chemin, par les matins de gelée, les serpents attendre que le soleil dégelât des portions de leur corps demeurées engourdies et rigides. Le 1er avril, il plut et la glace fondit. Et aux premières heures du jour, heure d'épais brouillard, j'entendis une oie traînarde qui devait voler à tâtons de côté et d'autre au-dessus de l'étang, cacarder comme perdue, ou tel l'esprit du brouillard. Ainsi continuai-je durant quelques jours à couper et façonner du bois de charpente, aussi des étais et des chevrons, tout cela avec ma modeste hache, sans nourrir beaucoup de pensées communicables ou savantes, en me chantant à moi-même « Men say they know many things, but lo, they have taken wings. The arts and sciences and 1,000 appliances, The wind that blows is all that anybody knows. L'homme prétend à main savoir. N'a-t-il les ailes de l'espoir, les arts et les sciences, et mille conséquences? Le vent qui renaît, voilà tout ce qu'on sait. Je taillais les poutres principales de 6 pouces carrés, la plupart des étais sur 2 côtés seulement, les chevrons et solives sur 1 seul côté, en laissant dessus le reste de l'écorce, de sorte qu'ils étaient tout aussi droits et beaucoup plus forts que ceux qui passent par la scie. Il n'est pas de pièce qui ne fût avec soin mortaisée ou tenonnée à sa souche, car vers ce temps-là, j'avais emprunté d'autres outils. Mes journées dans les bois n'en étaient pas de bien longues. Toutefois, j'emportais d'ordinaire mon dîner de pain et de beurre, et lisais le journal qui l'enveloppait, à midi, assis parmi les rameaux verts détachés par moi des pins, tandis qu'à ma miche se communiquait un peu de leur senteur, car j'avais les mains couvertes d'une épaisse couche de résine. Avant d'avoir fini, j'étais plutôt l'ami que l'ennemi des pins, quoique j'en eusse abattu quelques-uns, ayant fait avec eux plus ample connaissance. Parfois, il arrivait qu'un promeneur dans le bois, sans vin, attiré par le bruit de ma hache, et nous bavardions gaiement par-dessus les copeaux dont j'étais l'auteur. Vers le milieu d'avril, car je ne mis nulle hâte dans mon travail, et tâchais plutôt de le mettre à profit, la charpente de ma maison achevée était prête à se voir dressée. J'avais acheté déjà la cabane de James Collins, un Irlandais qui travaillait au chemin de fer de Fitchburg, pour avoir des planches. La cabane de James Collins passait pour particulièrement belle. Lorsque j'allais la voir, il était absent. Je me promenais tout autour, d'abord inaperçu de l'intérieur, tant la fenêtre en était renfoncée et haut placée. De petite dimension, elle avait un toit de cottage en pointe, et l'on n'en pouvait voir guère davantage, entourée qu'elle se trouvait d'une couche de boue épaisse de 5 pieds, qu'on eût prise pour un amas d'engrais. Le toit en était la partie la plus saine, quoique le soleil en eût déjeté et rendu friable une bonne portion. De seuil, il n'était question, mais à sa place un passage à demeure pour les poules sous la planche de la porte. Mrs. Collins vint à cette porte et me demanda de vouloir bien prendre un aperçu de l'intérieur. Mon approche provoqua l'entrée préalable des poules. Il faisait noir, et le plancher, rien qu'une planche par-ci par-là qui ne supporterait pas le déplacement, en grande partie recouvert de saleté, était humide, visqueux et faisait frissonner. Elle alluma une lampe pour me montrer l'intérieur du toit et des murs, et aussi que le plancher s'étendait jusque sous le lit, tout en me mettant en garde contre une incursion dans la cave, sorte de trou aux ordures profond de 2 pieds. Suivant ses propres paroles, c'était de bonnes planches en l'air, de bonnes planches tout autour, et une bonne fenêtre, de 2 carreaux tout entiers à l'origine, sauf que le chat était dernièrement sorti par là. Il y avait un poêle, un lit et une place pour s'asseoir. Un enfant là, tel qu'il était né, une ombrelle de soie, un miroir à cadre doré, un moulin à café neuf et breveté, cloué à un plançon de chêne, 1 point, c'est tout. Le marché fut tôt conclu, car James, sur les entrefaites, était rentré. J'aurais à payer ce soir 4,25 $, et lui à déguerpir à 5 heures demain matin, sans vendre à personne d'autre d'ici là. J'entrerai en possession à 6 heures. Il serait bon, ajouta-t-il, d'être là de bonne heure, afin de prévenir certaines réclamations pas très claires et encore moins justes, rapport à la redevance et au combustible. C'était là, m'assura-t-il, le seul et unique ennui. À 6 heures, je le croisai sur la route, lui et sa famille. Tout leur avoir, lit, moulin à café, miroir, poule, tenait en un seul gros paquet, tout sauf le chat. Ce dernier s'adonna au bois, où il devint chat sauvage, et, suivant ce que j'appris dans la suite, mit la patte dans un piège à marmotte, pour ainsi devenir, en fin de compte, un chat mort. Je démolis cette demeure le matin même, en retirai les clous, et la transportai par petites charretées au bord de l'étang, où j'étendis les planches sur l'herbe, pour y blanchir et se redresser au soleil. Certaines grives matinales lança une note ou 2 en mon honneur, comme je suivais en voiture le sentier des bois. je fus traîtreusement averti par un jeune Patrick que dans les intervalles du transport, le voisin Sealy, un Irlandais, transférait dans ses poches les clous, crampons et chevilles encore passables, droits et enfonçables, pour rester là quand je revenais et, comme si de rien n'était, de son air le plus innocent, lever les yeux de nouveau sur le désastre. Il y avait disette d'ouvrage, comme il disait. Il était là pour représenter l'assistance et contribuer à ne faire qu'un de cet événement en apparence insignifiant avec l'enlèvement des dieux de Troie. Je creusais ma cave dans le flanc d'une colline dont la pente allait sud. Là où une marmotte avait autrefois creusé son terrier, à travers des racines de sumac et de ronces, et la plus basse tache de végétation, 6 pieds carrés sur 7 de profondeur, jusqu'à un sable fin où les pommes de terre ne gèleraient pas par n'importe quel hiver. Les côtés furent laissés en talus et non maçonnés. Mais le soleil n'ayant jamais brillé sur eux, le sable s'en tient encore en place. Ce fut l'affaire de 2 heures de travail. Je pris un plaisir tout particulier à entamer ainsi le sol, car il n'est guère de latitude où les hommes ne fouillent la terre en quête d'une température égale. Sous la plus magnifique maison de la ville se trouvera encore la cave où l'on met en provision ses racines comme jadis. Et longtemps après que l'édifice aura disparu, la postérité retrouvera son encoche dans la terre. La maison n'est toujours qu'une sorte de porche à l'entrée d'un terrier. Enfin, au commencement de mai, avec l'aide de quelques-unes de mes connaissances, plutôt pour mettre à profit si bonne occasion de voisiner que par toute autre nécessité, je dressai la charpente de ma maison. Nul ne fut jamais plus que moi honoré en la personne de ses fondateurs. Ils sont destinés, j'espère, à assister un jour à la fondation d'édifices plus majestueux. Je commençai à occuper ma maison le 4 juillet, dès qu'elle fut pourvue de planches et de toits, car les planches étant soigneusement taillées en biseaux et posées en recouvrement, elles se trouvaient impénétrables à la pluie. Mais avant d'y mettre les planches, je posai à l'une des extrémités les bases d'une cheminée, en montant de l'étang sur la colline 2 charretées de pierre dans mes bras. Je construisis la cheminée après mon sarclage en automne, avant que le feu devînt nécessaire pour se chauffer, et fis en attendant ma cuisine dehors par terre de bonne heure le matin. Manière de procéder que je crois encore à certains égards plus commode et plus agréable que la manière usuelle. Faisait-il de l'orage avant que mon pain fût cuit, que j'assujettissais quelques planches au-dessus du feu, m'asseyais dessous pour surveiller ma miche, et passais de la sorte quelques heures charmantes. En ce temps où mes mains étaient fort occupées, je ne lus guère, mais les moindres bouts de papier traînant par terre, ma poignée ou ma nappe, me procuraient tout autant de plaisir, en fait remplissaient le même but que l'Iliade. Il vaudrait la peine de construire avec plus encore de mûres réflexions que je ne fis, en se demandant par exemple où une porte, une fenêtre, une cave, un galetas trouvent leur base dans la nature de l'homme, et peut-être n'élevant jamais d'édifice qu'on ne lui ait trouvé une meilleure raison d'être que nos besoins temporels mêmes. Il y a chez l'homme qui construit sa propre maison un peu de cet esprit d'à-propos que l'on trouve chez l'oiseau qui construit son propre nid. Si les hommes construisaient de leurs propres mains leur demeure et se procuraient la nourriture pour eux-mêmes comme pour leur famille, simplement et honnêtement, qui sait si la faculté poétique ne se développerait pas universellement, tout comme les oiseaux universellement chantent lorsqu'ils s'y trouvent invités. Mais hélas, nous agissons à la ressemblance de l'étourneau et du coucou qui pondent leurs œufs dans les nids que d'autres oiseaux ont bâtis et qui n'encouragent nul voyageur avec leur caquet inharmonieux. Abandonnerons-nous donc le plaisir de la construction aux charpentiers? À quoi se réduit l'architecture dans l'expérience de la masse des hommes? Je n'ai jamais, au cours de mes promenades, rencontré un seul homme livré à l'occupation si simple et si naturelle qui consiste à construire sa maison. Nous dépendons de la communauté. Ce n'est pas le tailleur seul qui est la 9e partie d'un homme. C'est aussi le prédicateur, le marchand, le fermier. Où doit aboutir cette division du travail? Et quel objet finalement sert-elle? Sans doute autrui peut-il aussi penser pour moi? Mais il n'est pas à souhaiter pour cela qu'il le fasse à l'exclusion de mon action de penser pour moi-même. C'est vrai, il est en ce pays ce qu'on nomme des architectes, et j'ai entendu parler de l'un d'eux au moins comme possédé de l'idée qu'il y a un fond de vérité, une nécessité, de là une beauté, dans l'acte qui consiste à faire des ornements d'architecture, à croire que c'est une révélation pour lui. Fort bien peut-être à son point de vue, mais guère mieux que le commun dilettantisme. En réformateur sentimental de l'architecture, c'est par la corniche qu'il commença, non par les fondations. Ce fut seulement l'embarras de savoir comment mettre un fond de vérité dans les ornements qui valut à toute dragée de renfermer en fait une amande ou un grain de carvi, bien qu'à mon sens, ce soit sans le sucre que les amandes sont les plus saines. Et non pas comment l'hôte, l'habitant, pourrait honnêtement bâtir à l'intérieur et à l'extérieur en laissant les ornements s'arranger à leur guise. Quel homme doué de raison supposa jamais que les ornements étaient quelque chose d'extérieur, simplement implanté dans la peau, et que si la tortue possédait une carapace tigrée, ou le coquillage ses teintes de nacre, c'était suivant tel contrat qui valut aux habitants de Broadway leur église de la Trinité. Mais un homme n'a pas plus à faire avec le style d'architecture de sa maison qu'une tortue avec celui de sa carapace. Ni ne doit le soldat être assez vain pour essayer de peindre la couleur précise de sa valeur sur sa bannière. C'est à l'ennemi à la découvrir. Il se peut qu'il pâlisse au moment de l'épreuve. Il me semblait voir cet homme se pencher par-dessus la corniche pour murmurer timidement son semblant de vérité aux rudes occupants qui la connaissaient en réalité mieux que lui. Ce que je vois de beauté architecturale aujourd'hui est venu, je le sais, progressivement du dedans au dehors, des nécessités et du caractère de l'habitant qui est le seul constructeur, de certaines sincérités inconscientes, de certaines noblesses, sans jamais une pensée pour l'apparence. Et quelque beauté additionnelle de ce genre qui soit destinée à se produire sera précédée d'une égale beauté inconsciente de vie. Les plus intéressantes demeures en ce pays-ci, le peintre le sait bien, sont les plus dénuées de prétentions, les humbles huttes et les cottages de troncs de bois des pauvres en général. C'est la vie des habitants dont ce sont les coquilles, et non point simplement quelques particularités dans ces surfaces, qui les rend pittoresques. Et tout aussi intéressante sera la case suburbaine du citoyen, lorsque la vie de celui-ci sera aussi simple et aussi agréable à l'imagination, et consentira aussi peu d'efforts visant à l'effet dans le style de sa demeure. Les ornements d'architecture, pour une large part, sont littéralement creux, et c'est sans dommage pour l'essentiel si un coup de vent de septembre les enlevait, tels des plumes d'emprunt. Ceux-là peuvent s'en tirer sans architecture, qui n'ont ni olive ni vin au cellier. Que serait-ce si l'on faisait autant d'embarras à propos des ornements de style en littérature, et si les architectes de nos Bibles dépensaient autant de temps à leur corniche que font les architectes de nos églises. Ainsi des belles lettres et des beaux-arts et de leurs professeurs. Voilà qui touche fort un homme, vraiment, de savoir comment sont inclinés quelques bouts de bois au-dessus ou au-dessous de lui et de quelle couleur sa case est barbouillée. Cela signifierait quelque chose si, dans un esprit de ferveur, il les eût inclinés, il l'eût barbouillé. Mais l'âme s'étant retirée de l'occupant, c'est tout de même que de construire son propre cercueil, l'architecture de la tombe. Et charpentier n'est que synonyme de fabricant de cercueil. Tel homme dit, en son désespoir ou son indifférence pour la vie, « Ramassez une poignée de terre qui est à vos pieds et peignez-moi votre maison de cette couleur-là. » Est-ce à sa dernière et étroite maison qu'il pense? Jouez-le à pile ou face. Qu'abondant doit être son loisir! Pourquoi ramasser une poignée de boue? Peignez plutôt votre maison de la couleur de votre teint, qu'elle pâlisse ou rougisse pour vous. Une entreprise pour améliorer le style de l'architecture des chaumières. Quand vous aurez tout prêt mes ornements, je les porterai. Avant l'hiver, je bâtis une cheminée et couvrit de bardeaux les côtés de ma maison, déjà imperméable à la pluie, de bardeaux imparfaits et pleins de sève, tirés de la première tranche de la bille et dont je dus redresser les bords au rabot. Je possède ainsi une maison recouverte étroitement de bardeaux et de plâtre, de 10 pieds de large sur 15 de long, aux jambages de 8 pieds, pourvue d'un grenier et d'un appentis, d'une grande fenêtre de chaque côté, de 2 trappes, d'une porte à l'extrémité et d'une cheminée de briques en face. Le coût exact de ma maison, au prix ordinaire de matériaux comme ceux dont je me servis, mais sans compter le travail tout entier fait par moi, fut le suivant. Et j'en donne le détail parce qu'il est peu de gens capables de dire exactement ce que coûte leur maison. Et moins encore, si seulement il en est, le coût séparé des matériaux divers dont elle se compose. Planche. $8.35. Planche de la cabane pour la plupart. Bardeaux de rebut pour le toit et les côtés. $4. Latte. $1.25. 2 fenêtres d'occasion avec verre. $2.43. 1 mille de vieilles briques. $4. 2 barils de chaux. $2.40. C'était cher. Crin. 31 cents. Plus qu'il ne fallait. Fer du manteau de cheminée. 15 cents. Clous. $3.90. Gonds et vis. 14 cents. Loquet. 10 cents. Craie. 1 cent. Transport. $1.40. J'en portais sur le dos une bonne partie. En tout, $28.12.5. C'est tout pour les matériaux, excepté le bois de charpente et les pierres et le sable que je m'appropriais suivant le droit du squatter. J'ai aussi un petit bûcher attenant, fait principalement de ce qui resta après la construction de la maison. Je me propose de me construire une maison qui surpassera en luxe et magnificence n'importe laquelle de la grande rue de Concord, le jour où il me plaira, et qui ne me coûtera pas plus que ma maison actuelle.